Eh bien, on va commencer. Oui, je vais reprendre ce que j'ai dit la semaine dernière, parce que c'est très important, et je voudrais ajouter des choses que je n'ai pas dites, parce que ce n'est pas une question qui a une petite importance. C'est vrai que nous sommes confrontés aujourd'hui à une différence de doctrine avec de chers frères en Christ. Et je tiens à souligner la chose. Ce sont de chers frères en Christ. Ce n'est pas que nous ne les aimons pas, mais nous ne sommes pas d'accord avec leur doctrine. Alors, c'est la question de la prédestination et du libre arbitre. Alors, notre Église et nous croyons que l'homme est libre, libre de ses choix. Et que un jour, Dieu le tiendra pour responsable de ses choix et de ce qu'il a fait. Et ce que les gens qui croient à la prédestination n'admettent pas. Ils disent que l'homme de toute éternité est prédestiné à être ce qu'il est. Si il est pécheur, il est pécheur, il sera pécheur, il mourra pécheur, il est perdu, il sera perdu, il restera perdu. C'est Dieu l'a créé perdu. Tandis que celui qui l'a créé et sauvé, eh bien, sera sauvé malgré tout. Un jour ou l'autre, il sera sauvé. Nous croyons que cette manière de voir est totalement en dehors de la pensée biblique. Et en plus, c'est une pensée dangereuse. Parce qu'elle crée une discrimination entre les êtres humains. Il y a ceux qui sont prédestinés et ceux qui ne le sont pas. Voilà. Alors, la prédestination n'est pas donc un autre point de doctrine que le nôtre, c'est une autre manière de lire la Bible. Si vous ne l'avez pas bien entendu, je vais vous le répéter, c'est une autre manière de lire la Bible. Ils ne lisent pas les versets de la parole de Dieu comme nous. C'est-à-dire que je vais prendre quelques versets et vous montrer la chose. Par exemple, vous avez Jean chapitre 16, verset 24, verset que nous avons appris par cœur il n'y a pas longtemps. Alors, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Mais ici, il s'agit de la prière. Il s'agit de demander à Dieu quelque chose pour qu'il nous l'accorde. Mais pour quelqu'un qui croit à la prédestination, eh bien, tout est déjà prévu de toute éternité. J'ai même lu dans l'institution chrétienne de Calvin que même le moindre petit souffle de vent est prévu de toute éternité. Il ne souffle pas un petit courant d'air qui ouvre une porte, par exemple, sans que ce soit prévu de toute éternité. Même les plus petits détails, les insignifiants, sont prévus et il ne peut pas arriver autre chose que ce qui est prévu. Parce que c'est prévu d'une manière souveraine par Dieu. Mais ici, le Seigneur Jésus nous donne un enseignement sur la prière. Et il nous dit, demandez et vous recevrez. Demandez en mon nom. C'est-à-dire que la prière change les choses. La prière, quand nous prions, nous attendons un exaucement à la prière. Si nous croyons à la prédestination, eh bien, il n'y a plus de prière. Et je me rappelle avoir prié avec quelqu'un qui ne croyait pas à la prédestination. Mais il n'a aucune énergie dans sa prière. Sa prière, c'est des lieux communs. Ce sont des choses qui, voilà, Seigneur, nous sommes heureux de t'appartenir, nous sommes tes enfants, et puis nous avançons, et nous te remercions parce que tu nous as sauvés. Mais il n'y a pas, on ne fait pas avancer les choses. Il n'y a pas un combat de la prière. La parole de Dieu nous enseigne que la prière est un combat. C'est une lutte. C'est une lutte que l'on perd ou que l'on gagne. C'est très important de savoir que nous pouvons prier pour obtenir. Et ça, c'est la pensée du libre arbitre. Donc, je vous ai dit, c'est une autre lecture de la parole de Dieu. Ils ne lisent pas les versets bibliques exactement comme nous. Donc, quand ils lisent un verset comme cela, eh bien, ils ne les touchent pas parce que de toute façon, tout est déjà prédestiné, prévu de toute éternité. Que je prie ou que je ne prie pas, ça ne changera rien. Tout est déjà prévu. C'est la personne avec laquelle je parlais m'a dit, oh, tu sais, il y a un livre sur la prière que Calvin a écrit, c'est vraiment merveilleux. Je dis, j'ai lu quelque chose que Calvin a écrit sur la prière, mais j'ai pas trouvé ça merveilleux, tu sais. Il dit clairement que la prière, c'est un exercice spirituel. C'est simplement. Et il dit que ça ne changera de toute façon pas les choses, parce que tout est déjà prévu. Mais c'est pour que l'on ne s'endorme pas, je répète les mots exacts, hein, qu'on ne s'endorme pas en paresse. Mais même ce qu'il dit là, c'est un non-sens. Parce que de toute éternité, Dieu a prévu que l'on s'endorme en paresse ou que l'on ne s'endorme pas en paresse. S'il t'endort en paresse, c'était prévu de toute éternité. Donc pour qu'on ne s'endorme pas en paresse, c'est laisser une petite place à un certain libre arbitre. Donc vous voyez la chose, j'ai lu aussi un livre d'un certain Sproul, je ne prononce certainement pas comme il le faut, sur la prière. Oh, c'est pas un livre très épais, mais son livre, c'est un commentaire sur le Notre Père. C'est tout. Il ne donne pas une vraie direction pour la prière. Il commente le Notre Père. Voilà, la prière idéale. Donc c'est si nous tenons au libre arbitre parce que cela change les choses. Ça change notre manière d'agir. Si par exemple vous pensez que celui qui est perdu est prédestiné à être perdu de toute éternité et celui qui est sauvé sera de toute façon sauvé parce que il est prévu de toute éternité qu'il soit sauvé, eh bien vous n'évangélisez plus. Oh, bien sûr, il y a eu des personnes qui croyaient à la prédestination, qui ont beaucoup évangélisé, mais en fait, ils n'étaient pas en accord avec leur doctrine de la prédestination. La doctrine de la prédestination, eh bien, fait qu'à la longue, ces personnes qui y croient n'évangélisent plus. Et vous avez les églises traditionnelles protestantes, eh bien, ce sont des églises vides. Les gens sont là depuis des générations et on peut dire, ah oui, mais mon ancêtre était un protestant. Et nous sommes protestants de père en fils, mais on est chrétien ou on ne l'est pas. Ce n'est pas une question d'être protestant. Il se passe leur doctrine de génération en génération et ils ne voient pas vers le monde extérieur et ils ne vont pas évangéliser. Alors je veux être juste avec eux, hein. Il y en a qui évangélisent. Ça, il faut le dire, hein. Mais il n'y a pas une véritable énergie à évangéliser. Parce que le perdu qui est devant eux, eh bien, ils se disent, de toute façon, s'ils n'acceptent pas, c'est qu'il est prédestiné à être perdu. Donc, je ne suis pas responsable. Mais Dieu nous tient responsables des personnes. Vous avez ce passage dans Ézéchiel, chapitre 18. C'est le verset 23. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu n'a pas prédestiné quelqu'un à être perdu. Et ici, il est dit que Dieu ne veut pas que le méchant meure. Dieu n'a pas prévu que le méchant meure. Ensuite, le verset 32, car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. Dit le Seigneur l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. Ce sont des versets très importants parce que Dieu tient l'homme pour responsable de son choix. Il s'est converti, s'il est sauvé, eh bien, il est sauvé parce qu'il l'a voulu. S'il est perdu, c'est parce qu'il l'a voulu. Il n'a pas voulu se repentir, il n'a pas voulu se tourner vers Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui est responsable de la mort du pécheur, mais c'est l'homme, le pécheur, qui est responsable de sa propre mort, qui est responsable de sa mort éternelle. de sa damnation. Tandis que quand on dit que Dieu a prédestiné des gens à être perdus, eh bien on fait Dieu responsable de la perdition des gens. Et même, j'ai lu quelque chose d'un auteur contemporain qui est hyper calviniste, eh bien lui dit que Dieu a créé le péché. Dieu est l'auteur du péché. Et pour moi, quand j'ai lu ça, j'étais scandalisé, parce que c'est un blasphème. Parce que cet homme va jusqu'au bout de cette fameuse doctrine. Parce que si Dieu a tout prédestiné, il a même prédestiné le péché. Et donc Dieu est l'auteur et le créateur du péché à un certain moment. Et ça, je peux vous dire, c'est un vrai blasphème. Parce que la parole de Dieu nous enseigne clairement que Dieu est saint et que la pensée du mal ne vient pas dans son esprit. Jamais. Dieu ne prévoit pas le mal. Dieu ne soupçonne pas le mal. C'est 1 Corinthiens chapitre 13. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et c'est quand on parle d'1 Corinthiens 13, on a l'habitude de dire c'est l'amour divin. Et c'est cet amour-là qui doit être, on doit comparer notre amour à cet amour d'1 Corinthiens 13. Et voilà, c'est comme vous avez un maître et vous regardez si votre, comment dire, ce que vous avez en main est bien fait un maître. Vous mesurez. Et ça fait parfois moins, ça fait parfois plus, mais la vérité, c'est le maître. Et c'est le 1 Corinthiens 13, c'est l'amour, le vrai. Et c'est l'amour divin, parce que Dieu est amour. Et l'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, etc. Je pourrais continuer sur tout cela. Et ce chapitre, eh bien, nous parle que Dieu ne peut pas être l'auteur du péché. Et il ne peut pas être non plus le créateur d'âmes, de créatures humaines faites pour l'enfer. Et c'est malheureux, mais il y a beaucoup de gens qui le croient. Et c'est dangereux parce que on arrive à ne plus voir les choses du point de vue divin. On le regarde du point de vue d'une doctrine et on se donne bonne conscience de ne plus aller évangéliser, de ne plus, parce que ben, on dit c'est Dieu le responsable. C'est Dieu qui l'a voulu. Voilà, Dieu l'a voulu. Combien de fois j'ai entendu des chrétiens dire, eh bien, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais Dieu n'a pas voulu la mort du pécheur. Dieu n'a pas voulu que nous fassions le mal. Dieu n'a pas voulu que nous vivions dans le péché. Dieu n'a pas voulu que nous vivions dans la débauche. Dieu ne veut pas ces choses-là. Dieu les condamne. Il nous tient pour responsables et un jour il y a un jugement pour ceux qui commettent ces choses. C'est l'homme qui est responsable, pas Dieu. Voilà. Donc c'était aussi cette disons, la prédestination et le libre arbitre tiennent aussi à ces choses-là. Il y a un autre verset, toujours, c'est sur la prière. C'est le Matthieu chapitre 24, le verset 20. C'est un verset qui est un verset de ce qu'on appelle l'eschatologie. Alors, il est dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. C'est le Seigneur Jésus dit, priez pour que cela n'arrive pas, pour que ça n'arrive pas un jour de sabbat ou en hiver. C'est-à-dire que la prière peut changer les choses. Il n'y a rien ce n'est pas décidé. Il n'y a pas une décision éternelle de que ça se passe en hiver, par exemple, ou que ça se passe en été. Il est dit de prier pour que la chose ne se passe pas en hiver ou un jour de sabbat. Vous voyez cet enseignement de ce verset. Mais vous avez, par exemple, tous ces passages de la Bible où il est question de la foi. Mais la foi. C'est le Seigneur nous dit d'avoir foi en Dieu. Vous avez par exemple ce passage dans l'épître de Jacques. C'est Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Vous voyez ce passage? C'est l'homme est responsable. Et il dit qu'il faut prier et prier avec foi. Mais selon la pensée du prédestination, eh bien, tout est déjà décidé d'avance. Mais ici, il est dit que nous devons prier avec foi pour obtenir. Et si nous ne prions pas avec foi, la foi est la condition essentielle, eh bien, les paroles sont dures, hein, mais c'est celui qui doute est semblable au flot de la mer. Voilà, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il ne peut pas s'attendre à des exaucements à ses prières. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas une décision de toute éternité. L'homme doit prier avec foi pour obtenir. Alors dans ce cas-là, c'est la sagesse, hein? Mais ça peut être pour bien d'autres sujets, la prière de la foi. Dieu veut exaucer la prière de la foi. Et on peut être exaucé. Et on ne peut ne pas être exaucé. Donc, les choses ne sont pas décidées de toute éternité. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Ce que nous devons apprendre, c'est que il y a un combat de la prière. Il y a le combat de la foi. Paul disait à Timothée, combat le bon combat de la foi. Et nous devons combattre un bon combat de la foi. C'est-à-dire que nous devons placer notre confiance en Dieu, dans sa parole, dans ce qu'il a dit. C'est sans douter. Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit dans sa parole. Et je peux dire une chose, c'est que Satan a peur des chrétiens qui prient et qui ont la foi. Il est très avantagé et il aime beaucoup que nous disions, eh bien, de toute éternité, tout est décidé. Donc il n'y a pas besoin de combattre. Le combat est déjà décidé d'avance. Voilà. Mais malheureusement, ces églises qui croient cela, un jour ou l'autre, finissent par disparaître. Je me rappelle d'un pasteur, un ami à moi, qui m'a parlé de certaines églises traditionnelles qui fermaient leurs portes aux États-Unis. Et cet homme pleurait en me disant cela. Il pleurait. Il m'a dit, il y a des églises qui ferment leurs portes parce qu'on n'annonce pas l'évangile. Et c'est un drame. Parce que ces chrétiens, ben, se sont dit, de toute façon, pourquoi faire ce que Dieu a décidé de toute éternité? On attend. Je me rappelle d'un chrétien qui attendait la volonté de Dieu pour partir comme missionnaire. Bon, il y a bien longtemps que je n'ai plus entendu parler de lui, mais je soupçonne qu'il est toujours en train d'attendre. Dieu n'attend pas que nous soyons des chrétiens passifs. Un chrétien, c'est que quelqu'un qui combat, qui lutte. Il y a le bon combat de la foi. Nous avons un ennemi et il faut le combattre. Il faut lutter. Et parfois, le pire ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. Et il faut combattre cet ennemi avec énergie, avec volonté, parce que les choses ne sont pas décidées d'avance. Nous pouvons obtenir des victoires dans nos vies. Nous pouvons obtenir des victoires dans l'Église. Nous pouvons obtenir des victoires dans le monde. Quand les chrétiens ont pris la doctrine du libre arbitre au sérieux, eh bien, ils ont été les plus grands missionnaires qu'il y a eu sur la terre. C'est comme cela que les gens sont allés annoncer l'Évangile partout dans le monde. C'est pour cela que les églises se sont remplies quand il y a eu des réveils, parce que les gens ont été convaincus que par la prière, ils pouvaient changer les choses, obtenir des réponses à leur prière, à la prière de la foi. C'est, je peux dire que cette influence de la prédestination, de cette pensée de la prédestination, déteint sur nous. Je vous le répète, cela déteint sur nous. Il y a une manière de penser qui est au milieu de nous, hein, qui est souvent dans la droite ligne du calvinisme et de la prédestination. C'est-à-dire que on attend, on est assez fataliste, mais quand nous sommes convaincus que la prière de la foi et l'action conduite par l'Esprit de Dieu peut changer les choses, alors nous sommes vraiment des chrétiens actifs, zélés, consacrés, parce qu'il peut y avoir quelque chose qui peut changer. C'est Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut que le pécheur se repente, qu'il se convertisse, qu'il revienne, qu'il vienne à Dieu. C'est Dieu avertit l'homme de changer de voie, de changer de conduite. C'est qu'il revienne à Dieu ou qu'il vienne à Dieu s'il n'est jamais venu. C'est les choses ne sont pas décidées d'avance. Nous pouvons avoir des âmes sauvées encore, et je peux vous dire, il y a encore des âmes à sauver à Paris. Et je peux dire, il y a des millions de personnes qui attendent qu'on leur annonce l'Évangile. Hier, j'attendais une personne dans la place d'Italie, en face il y a un grand centre, Italie 2, je crois, un truc comme ça. Mais il y avait deux frères qui étaient là en train d'évangéliser. Ah, mais vraiment, alors là, ils évangélisaient, hein, je peux vous dire. Hein. C'était deux Africains. Et ils arrêtaient les gens et ils disent, Dieu vous aime, Dieu veut vous sauver. Et ils arrêtaient les gens. Et ils n'avaient pas un papier ou une invitation ou quoi que ce soit. Ils avaient leur Bible. Et ils allaient pour annoncer l'Évangile. Je suis allé, j'ai parlé avec eux, on a sympathisé. Je vous encourage beaucoup à continuer parce que c'est vraiment ce que vous faites, c'est l'œuvre de Dieu. Ils y croient. Ils veulent vraiment que les gens soient sauvés. Et je me dis, c'est quand même quelque chose qu'il y a deux personnes pour le faire. Et je me dis, il y a les milliers de chrétiens qu'il y a dans Paris, parce qu'il y a des milliers, ben, ils ne le font pas. Ils n'évangélisent pas parce que sont pas motivés. Peut-être que de toute façon, les gens qui doivent être sauvés seront sauvés. Et les perdus, ben, on ne pourra pas les faire changer. Ils sont destinés à être perdus. Le raisonnement ne va pas si loin. Mais néanmoins, on ne raisonne pas. On agit comme si on avait raisonné comme cela. Mais c'est pour cela que je vous dis que cette manière de penser déteint sur nous, agit aussi dans notre manière de faire, de prier, d'intercéder. Je me rappelle avoir entendu des prières. Bon, après la réunion de prière, on se serre la main, on peut partir. Il n'y a rien. On n'a pas prié. On n'a pas vraiment intercédé. On n'a pas lutté dans la prière. On n'a pas désiré obtenir quelque chose dans la prière. On a donné des lieux communs. Voilà, Seigneur, bénis-nous. Seigneur, continue à faire ton œuvre. Seigneur, mais il n'y a pas quelque chose une conviction, quelque chose de puissant dans ces prières. Il n'y a pas une vraie prière parce que on est devenu fataliste. Il y a un fatalisme chrétien, malheureusement. Et c'est parce que nous sommes influencés par cette doctrine de la prédestination. Tandis que si nous croyons que les choses peuvent changer et que nous pouvons nous-mêmes changer et que Dieu veut notre changement, il veut notre croissance, il veut que nous grandissions dans la vie chrétienne, il veut que nous fassions des progrès, il veut que nous marchions à sa lumière et nous sommes responsables si nous ne marchons pas à sa lumière, alors à ce moment-là, les choses peuvent changer dans nos vies. Mais si nous attendons rien, voilà, je suis sauvé. Il y a des personnes, je me rappelle d'une dame, elle m'a dit, il y a 50 ans que je suis sauvé. Ah, 50 ans qu'elle est sauvée. C'était quelque chose de merveilleux. Je faisais une visite dans cette famille. Et puis, la fille est arrivée avec la nouvelle voiture. Eh bien, ils m'ont laissé hein, dans le salon pour aller voir la nouvelle voiture. Et je suis parti. Ils se sont même pas rendu compte quand je suis parti. Et en fait, 50 ans qu'elle était convertie, cette dame, mais son Dieu, c'était une voiture. Parce que la voiture a pu la faire courir dans son jardin pour aller voir la nouvelle voiture. Et je peux vous dire, après bien des années, cette nouvelle voiture, si magnifique, si neuve et si parfaite, eh bien aujourd'hui, elle est peut-être une boîte de conserve, parce que certainement, après 20 ans, oui, plus que 20 ans, 35 ans, eh bien, elle est devenue autre chose qu'une voiture, hein. Certainement, elle est à la casse, ou elle n'est même plus à la casse, mais elle a été débitée en autre chose. Et il y a des atomes qui sont dans une chose. Voilà, c'est en quoi une personne comme cela pouvait mettre sa confiance. Elle pouvait se vanter de 50 ans de vie chrétienne, mais il n'y avait pas de vie chrétienne. C'est la vie chrétienne, c'est autre chose. Je peux vous dire, nous sommes le chrétien que nous voulons. Si vous voulez grandir dans votre vie chrétienne, alors vous pouvez grandir. Ce n'est pas quelque chose de décidé de toute éternité que vous soyez un chrétien médiocre, un chrétien qui vivote la vie chrétienne. Vous êtes responsable pour votre vie chrétienne, pour votre croissance. Si vous ne faites pas un choix adulte et dire je veux grandir dans ma vie chrétienne, je veux avancer, je veux prier et que mes prières soient exaucées, je veux obtenir dans la prière. On se fait violence. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce ne sont pas les violents ceux qui frappent les autres, mais c'est ceux qui se font violence à eux. Et on a une paresse naturelle. Et cette doctrine de la prédestination va dans le sens de notre paresse naturelle. Mais il y a une violence que l'on doit se faire. Et on dit non. Je ne veux plus être un chrétien passif. Je veux être un chrétien actif. Je veux marcher dans la vie chrétienne. Je veux vivre debout. Je veux pas vivre couché. Je veux pas vivre à pleurer sur mon sort, pleurer sur un choix éternel que Dieu a fait et qui ne peut pas être changé. Je peux changer les choses. Quand je prie, je peux changer les choses. Et je peux vous dire, quand vous priez vraiment, eh bien Satan commence à être à bouger parce qu'il a peur. Mais si vous êtes passif et vous attendez que peut-être Dieu un jour va m'éclairer. Vous pouvez attendre comme cela toute votre vie. Et vous pouvez attendre que les âmes passent la porte. Et vous pouvez attendre que les gens se convertissent. Et vous attendrez toute votre vie. Et je connais beaucoup de chrétiens et beaucoup de serviteurs de Dieu qui attendent. Et ils attendent. Et ils attendent. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, ils attendent. Et ils n'ont rien. Parce qu'ils n'ont pas voulu obtenir. Il y a l'attente de la foi, d'accord, mais il y a aussi l'action. Et il y a la volonté d'agir et de changer les choses. Et ça, c'est très important. C'est donc cette pensée, je vais m'arrêter ici, mais la différence qu'il y a entre la prédestination et le libre arbitre. Vous êtes responsable. Et le monde, chaque être humain est responsable. Alors, nous sommes responsables, nous, en tant que chrétiens, pour ce que nous sommes. Mais les âmes perdues sont responsables aussi. Mais nous pensons que seulement les âmes perdues sont responsables et que nous, eh bien, nous sommes sauvés, tout va bien. Mais nous sommes responsables pour nos progrès. Nous sommes responsables pour notre croissance. Nous sommes responsables pour le chrétien que nous sommes. Et nous sommes responsables de notre engagement dans l'Église. Et Dieu nous demandera des comptes pour tout cela. Voilà.